M. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Le centre départemental d'archéologie, rattaché au conseil départemental du Finistère, est au fou, comme nous. Ça nous vaut de belles émissions sur les coulisses de l'archéologie, sur les métiers spécialisés qui marquent cette discipline, mais aussi bien sûr sur les découvertes, sur les mises au jour liées aux fouilles dans le Finistère. Et puis parfois, on parcourt une période et un thème avec un ou une spécialiste. Aujourd'hui, c'est Muriel Philly qui nous fait le plaisir de venir. Elle est proto-historienne, comme on dit, donc elle s'intéresse à cette période juste avant qu'on utilise l'écriture, mais qui sort un peu de la préhistoire, proprement dite. Elle, donc, c'est l'âge du bronze, sa période de prédilection. Aujourd'hui, le sujet est grave. Malheureusement, il ne s'est pas perdu dans la nuit des temps. Nous allons parler de la guerre à l'âge du bronze. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors, on va resituer l'âge du bronze, surtout pour l'armorique, parce que on sait, l'âge du bronze, ça varie selon les endroits de la Terre, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, c'est une période chronologique qui correspond à la proto-histoire ancienne. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont l'écriture et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de proto-histoire qui évolue en parallèle. Donc là, on se situe en 2200 à 800 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et puis donc, on est entre le néolithique et puis plus tard, il y aura l'âge du fer avec les Gaulois. Et donc, comme tu le disais, il n'y a pas d'écriture et donc c'est surtout connu par l'archéologie.
Donc, moins 2200, moins 800, c'est pour l'armorique, enfin, pour la France, pour...
Oui, c'est les dates qu'on va garder généralement pour la France. Ouais.
D'accord,
ouais. Ok. Et donc, comme son nom l'indique, ben, c'est la découverte de l'alliage de bronze, en fait, qui va donner son nom à cette période, puisqu'on estime que c'est la chose la plus importante qui caractérise cette période. Donc, c'est un alliage avec du cuivre et de l'étain. Et puis donc, ben, tout son développement avec des ressources et tout un savoir-faire qui va aller avec. Et puis, cette découverte va entraîner des nombreuses modifications dans la société. Donc, entre ceux qui ont du minerai, ceux qui sont sur les voies de passage pour aller chercher du minerai, puis ceux qui n'en ont pas. Et puis, donc pour la Bretagne, ici, on a de l'étain, d'où sans doute la richesse, en fait, à cette époque, pour la Bretagne. Et puis, une position de carrefour intéressante aussi, vers l'Irlande, vers l'Angleterre. Donc, c'est une période très, très riche pour la Bretagne. Donc, il faut imaginer, on pense à des petits clans qui vivent sur le territoire avec des petites fermes sans doute familiales. Donc on trouve en fait...
Quoi, une quinzaine de personnes? Enfin, c'est quoi un petit clan?
Ben, alors on pense on parle de chefferies sur 300-400 hectares souvent. Donc il devait y avoir, on peut penser, moi souvent j'imagine comme en Écosse au 17e où il y a le chef de clan et puis des fermes en fait... Voilà, des fermes familiales. On a trouvé des petites maisons rondes en bois, donc il ne reste plus les maisons. Hein. On a juste les trous de poteaux, et puis parfois elles sont seules, parfois par deux, par trois, certains villages avec une dizaine de maisons. Et donc on trouve, c'est les traces des premiers parcellaires aussi. Première façon dont l'agriculture va s'organiser encore plus qu'au néolithique.
Oui, parce que l'agriculture est déjà installée depuis un moment, là, à l'âge du bronze. Quoi. Ça fait,
Mais les premiers parcellaires quand même, donc c'est-à-dire que ça va figer peut-être un peu plus le territoire et structurer... dans ce qu'on connaît pour l'instant, structurer plus le territoire.
Et les parcellaires, on les détecte comment en archéologie, en gros, comment on sait qu'il y a eu tel champ du bocage, éventuellement, enfin, je sais pas, ou des talus
Alors, il y a l'archéologie aérienne, la prospection aérienne, hein, où il y a les plantes qui poussent différemment selon ce qui a été au sol, donc qui peuvent apparaître par avion ou par satellite. Et ensuite, nous, c'est quand on fouille, en fait, on va trouver des fossés qu'on va fouiller dans l'archéologie préventive, par exemple. Et donc, ils vont commencer, voilà, on va suivre les traces. Et puis, à l'intérieur, on va trouver des déchets de poterie, par exemple, qui vont nous permettre de dater.
Et c'est des grandes parcelles ou,
C'est intéressant. Alors, c'est rigolo parce que c'est moins structuré que chez les Romains, où tout était plus normé. Là, c'est un peu plus aléatoire, mais ça peut être des grandes parcelles. Il y a eu des études qui ont été faites en Normandie sur ces thèmes-là, par exemple.
Et ça, quand il y a un parcellaire, ça suppose les hypothèses, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires ou qu'est-ce que ça entraîne comme déduction?
C'est une question complexe, ça, parce qu'on ne le sait pas vraiment. En fait, il n'y a pas d'écrit, donc on peut juste supposer. Est-ce que c'était pour une différence de culture? Après, il y avait les enclos pour les animaux aussi, donc pour qu'ils ne passent pas, peut-être pour protéger des animaux sauvages. Il y a plein de possibilités.
Donc ces petites unités, qui ne sont pas vraiment des villages, des petits villages, est-ce que en Armorique, si on est une région riche, est-ce que c'est densément peuplé par rapport à d'autres régions, par exemple, ou est-ce que c'est quand même, il y a quand même de l'espace entre ces différentes unités
Après, c'est seulement avec ce qu'on trouve en archéologie. Mais c'est vrai que là, plus on fouille, hein, avec le développement de l'archéologie préventive, on dégage des grandes surfaces et c'est maintenant qu'on trouve tous ces villages. Parce qu'avant, on connaissait surtout les tombes et puis les dépôts d'objets métalliques. On ne savait pas où ils habitaient. Et maintenant, en fait, on voit ces villages et puis ça vraiment... on en trouve assez souvent quand même. Ouais. Mais pas suffisamment pour savoir la densité, en fait, quand même.
Oui, et on peut savoir s'ils étaient éventuellement reliés entre eux. Est-ce qu'il y avait déjà des voies pré-romaines?
Ah oui, les voies anciennes, on connaît en fait des voies anciennes qui jalonnent le territoire, qui vont être suivies après. Hein. Souvent, c'est les mêmes voies qui continuent sur la hauteur. Et souvent, on le sait parce qu'il y a des tumulus, en fait. Donc, ces grandes tombes qui marquent le territoire sous un tertre, qui jalonnent, en fait, qui devaient être au bord des voies...
Donc, sans doute des liens, et certainement commerciaux, entre ces villages, ces unités, c'est ça, plutôt que des guerres.
Il y a les deux.
Alors voilà.
Il y a énormément d'échanges, beaucoup de circulation de matière. En fait, on parle d'un début d'Europe, donc avec bien sûr des différents groupes culturels, mais c'est véritablement le début de l'Europe, en fait.
Mm-hmm. Et des conflits quand même. Alors, il y avait un colloque, j'ai retrouvé ça sur le net, ce colloque de 2020, qui avait pour titre « Âge du bronze, âge de guerre ». Pourquoi est-ce que ce titre-là ?
Ce titre-là, parce qu'il faut savoir que déjà, un des premiers récits guerriers en fait, qu'on connaisse date de l'âge du bronze. Donc, il n'y a pas d'écrit à l'âge du bronze, mais il y a une transmission. Et donc, plus tard, on connaît les récits de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Donc, qui sont donc deux longs poèmes de tradition orale qui sont censés se passer à l'âge du bronze, en fait, à l'âge du bronze final, et même s'ils ont été écrits un petit peu plus tard, au 8e siècle, plutôt à l'âge du fer. Mais donc, voilà, Ulysse, c'est un guerrier du bronze final, qui est le mythe fondateur de la culture grecque et puis de l'Europe, en fait.
Il faut peut-être qu'on définisse ce qu'est une guerre, en fait, par rapport à un conflit local ou... Voilà.
Ouais, alors là, je t'avoue que je prends la définition de la préhistorienne Marilène... Patou Matisse qui dit « La guerre a pour caractéristique essentielle d'être méthodique et organisée. Elle consiste à maîtriser l'emploi de la violence au sein de la communauté pour la tourner vers un ennemi extérieur. »
Bon, donc ça veut dire qu'on a une armée en fait, en gros, c'est ça? Ça pourrait être ça peut-être pas permanente, mais...
Disons que ça va... C'est vrai qu'il y a la notion d'organisation et puis d'ennemi commun en fait, où c'est tout un groupe qui va se structurer pour un but précis contre quelqu'un de précis ou contre quelque chose précisément en fait.
Donc c'est une définition, sachant que les chercheurs ne sont pas forcément tous d'accord sur les définitions, c'est ça?
C'est au niveau de l'apparition de la violence, en fait, où là, ils ne vont pas forcément être d'accord. Il y en a qui vont dire ça vient de la préhistoire, d'autres vont dire que ça vient avec la hiérarchisation de la société. Et suivant les pays aussi, suivant la vision qu'on a de la guerre, en fait, les archéologues des différents pays vont avoir différentes façons d'imaginer en fait, cette guerre, en fait, enfin, les différentes guerres.
À l'âge du bronze, donc moins de 2200-800, c'est une grosse période, mais est-ce qu'on sait qu'elle se structure, la société? C'est
oui.
Ça.
Il y a une hiérarchisation avec tous les échanges, ce minerai, les clans, l'inégalité du coup qui arrive aussi en même temps.
Et les traces de l'inégalité ou de la hiérarchisation, c'est quoi par exemple en archéologie?
Par exemple, dans les tombes, ici à l'âge du bronze ancien, on a énormément de tombes sous tumulus. Mais pas suffisamment pour que toute la population soit quand même enterrée dessous. Donc il y en a certains où il y a des offrandes très très riches. Donc là, on pense plutôt à une certaine élite, en fait, peut-être au chef de clan. Donc par la mort, en fait, on va voir une différence, en fait, déjà.
Donc ça peut être logique d'avoir des guerres vraiment plus organisées. Alors quelles sont peut-être déjà pour commencer les armes? C'est une période d'armes, l'âge du bronze, c'est ça?
Une période d'armes avec le développement de la métallurgie en fait qui va permettre des avancées techniques avec des armes plus solides. Des caractéristiques qu'on peut vraiment développer dans plein de directions. Ces armes qu'on va connaître soit directement par les objets qu'on peut trouver en fouille, soit par des représentations sur l'art rupestre. Sur des sculptures, les statues menhirs, par exemple, qu'on peut trouver en Corse, où on peut voir les armes en fait, qu'ils avaient à cette époque. Et donc, on connaît des armes en métal ou en pierre. Donc, il y a tout ce qui...
Il y a encore des armes en pierre. Ce n'est pas parce qu'on est à l'âge du bronze qu'il n'y a pas plus d'armes en pierre.
Il y a encore des armes en pierre. Parce que en fait, on se sert, quand on a besoin, on se sert de ce qu'on va trouver aussi à côté. Et donc, on différencie les armes d'attaque. Donc au bronze ancien, par exemple, on a des poignards. Et puis quand on arrive vers le bronze moyen, là, il y a l'épée en fait, qui va se développer. Donc qui apparaît, puis qui se développe. Il y a des différences en fait, dans l'évolution. On connaît aussi des pointes de lance, des haches, qui pouvaient être des outils, mais qui peuvent aussi éventuellement servir d'armes. Bah, il y a les pointes de flèche en silex qu'on connaît dans les tombes de l'âge du bronze, qui éventuellement voilà, auraient pu servir aussi. Et on connaît des balles de fronde en pierre également.
Ah oui, mais les pointes de flèche restent en silex à l'âge du bronze.
Il y en a aussi en bronze.
Ah ouais.
Mais on continue, bah, au bronze ancien par exemple, on atteint le summum en fait, de la technologie dans la fabrication de ces pointes de flèche en silex qui sont magnifiques.
Et comment on sait qu'elles ont servi ?
Alors ça, c'est toute une discipline qui s'appelle la tracéologie. Donc il y a des archéologues qui sont spécialisés dans ces domaines-là, qui vont étudier donc, les traces sur les objets, donc au microscope. Donc il y a les traces de fabrication, mais il y a aussi les traces d'utilisation. Et donc toute cette, ça va permettre de différencier les armes d'apparat des armes de combat. On va regarder par exemple, est-ce qu'il y a eu une épée contre une épée ? Est-ce qu'il y a des encoches ? Est-ce que ça a été une hache contre une épée, en fait. On va observer au microscope pour essayer de définir. On connaît aussi des armes défensives, hein, des boucliers. Donc, on va regarder, en fait, les traces de coups qu'il peut y avoir sur les boucliers.
Ah oui, il y a encore des boucliers qui ont été conservés. Donc, c'était la partie métallique uniquement, j'imagine.
Oui, c'était le limbeau qui était au milieu, en fait. Souvent, on pense qu'ils étaient en bois, en cuir, enfin, voilà, en différents matériaux qui, la plupart du temps, ont disparu, surtout ici. Mais donc, on connaît des cuirasses en bronze, des casques en bronze aussi, qui ont été découverts, donc tout un... Et donc, on va étudier les traces, en fait, directement sur ces armes. Il y avait certainement aussi des armes voilà, en bois, mais qu'il est plus difficile de trouver aujourd'hui.
Et la plupart des armes qu'on a retrouvées, donc, ont servi
Beaucoup ont servi. Alors, au bronze ancien, c'est sûr, on a plutôt des armes d'apparat, des armes de prestige, peut-être plutôt dans les tombes. Mais à partir du bronze moyen, on va différencier, en fait, celles qui sont d'apparat et celles qui ont véritablement servi, ouais.
Donc on a des armes, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a eu vraiment guerre Quelles sont les autres traces, en fait?
Alors, c'est difficile de trouver des lieux de guerre primaire, en fait, le contexte primaire. On en connaît, il y a un site qui est assez connu en Allemagne, dans la vallée de Tolence. Donc là, on se trouve à 1200 avant Jésus-Christ, donc au bronze final. Il y a près de 12 000 restes humains qui ont été découverts sur les berges d'une rivière, donc avec des armes et des chevaux aussi. Et donc, il y a certains corps qui avaient été qui étaient transpercés par des pointes de flèches, par exemple. On a trouvé les archéologues ont trouvé des vestiges de sédiments, d'armes, en fait, dans les sédiments boueux. C'était les cadavres des combattants qui avaient dû dériver dans la rivière, en fait, quand ils sont morts et qui se sont déplacés un petit peu plus loin. Et c'est là où ils ont été conservés, en fait, par la... Enfin, les squelettes ont été conservés beaucoup par la boue et les armes aussi. Et donc, ils ont trouvé des couteaux, des pointes de flèches, des arminettes, énormément d'armes. Et 27% des restes portaient des traces de blessures en voie de guérison.
Ah, quand même !
Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait peut-être une autre bataille avant. Donc mais là, c'était une grosse bataille. Hein. On parle de deux grosses armées, sans doute, avec des milliers d'hommes, en fait.
Combien de morts, là ? Enfin, combien de squelettes on a retrouvé, en gros ?
Je crois qu'ils ont trouvé 12 000 restes humains, mais après, des restes qui pouvaient correspondre parfois à un même individu. Mais voilà, c'était assez énorme. Il n'y a que 10% du site qui a été fouillé. Donc, mais c'est très, très rare, quand même, d'avoir cette chance de trouver un lieu de bataille qui, ici, a été trouvé par hasard.
Et c'est le seul dans le coin. Enfin, on n'a pas pu trouver d'autres endroits. Du coup, on s'est pas mis à fouiller aux alentours pour voir s'il y avait eu d'autres combats, justement.
Ils ont fouillé un petit peu. Je crois qu'ils ont fouillé 450 mètres carrés, mais c'est tellement riche. Enfin, ça va rester en réserve archéologique, je pense, pour les archéologues du futur. Et puis, c'était inespéré, hein, trouver par hasard. Après, on en connaît quelques autres en Angleterre et en Norvège. Peut-être où ça a été mieux conservé par la tourbe aussi, ce genre de choses.
Vive l'humidité, de toute façon.
Voilà, c'est ça. Vive la tourbe, qui a sans doute plus conservé les restes.
Et pareil, il faut une certaine quantité, entre guillemets, de restes humains et d'armes pour pouvoir se figurer une bataille. C'est ça.
Ben, ouais, et puis c'est surtout la façon dont... c'est là où c'est intéressant de faire la fouille, c'est de voir où est-ce qu'étaient les armes, en fait. Parce que nous, la plupart du temps, quand on trouve les armes ici, ce sont dans des dépôts d'objets métalliques. Donc qu'on met aujourd'hui comme des dépôts rituels, peut-être d'offrandes. On ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y avait pas d'écrit, donc c'est complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut les fouiller. Mais c'est vrai que nous, ici, on les a plutôt dans un autre contexte que le contexte guerrier, en fait.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Par exemple, le dépôt de haches, enfin, ce n'est pas des haches, d'ailleurs, qu'on peut voir au musée départemental breton. C'est ça, hein, enfin, c'est un dépôt votif, comme on pourrait dire.
Oui, il y a plusieurs dépôts. Alors au bronze final, il y a des dépôts, on va trouver des épées cassées, avec des haches cassées, parfois entières. Et dessus, donc, là où la tracéologie est intéressante, c'est qu'on va étudier, il y a les traces de fabrication, les traces d'utilisation, et puis toutes les traces de détérioration, on a voulu casser l'objet aussi, peut-être parfois, pour qu'il ne resserve pas. Pour l'épée, par exemple, on sait chez les Celtes qu'on cassait l'épée, hein, en fait, pour quand le guerrier mourait, pour que son épée ne soit pas réutilisée par un autre. Et puis peut-être aussi rituellement, et il se passait quelque chose quand on cassait, peut-être spirituellement, en fait, l'arme du guerrier.
Et dans le cas de la vallée de Tolens, par exemple, est-ce qu'on a réussi à savoir s'il y avait, enfin, à distinguer les deux camps? Et comment?
Alors, ils ont fait des analyses des dents qui ont pu montrer qu'en fait, les guerriers venaient de plein de coins d'Europe. Donc, ça devait être quand même un très grand conflit où des gens se sont... Ils ont vu qu'il y avait des gens d'origine du Pays-Bas, de Pologne, je crois. Enfin,
il y a eu des alliances de part et d'autre, sans doute.
Il y a eu des alliances de part et d'autre. Après, on ne sait pas pourquoi, en fait.
Ah bah non, ça, c'est vraiment très frustrant. On aimerait bien savoir pourquoi. Et c'était uniquement des restes humains masculins ou...
Je ne sais pas s'ils ont pu définir précisément. Ça, je ne le sais pas.
Parce qu'on imagine hein, que quand il s'agit de guerre, c'est plutôt masculin, en fait. Peut-être qu'on a des idées reçues là-dessus.
Il y a sûrement des idées reçues. Et après, oui, c'est difficile de savoir est-ce que c'était des guerriers de métier ? Est-ce qu'ils faisaient que ça ? Ou est-ce que c'était seulement dans un temps spécifique des guerriers fermiers, par exemple ? Est-ce qu'ils avaient droit à un moment, pour X raisons, dans un contexte ritualisé, de donner la mort, en fait, ou de créer de la violence pour... Il y en a qui pensent aussi, donc j'ai des collègues en Allemagne qui ont fait des thèses sur ces dépôts d'armes, en fait, des dépôts d'objets métalliques où il n'y a que des armes. Et certains pensent que ça pouvait être un rituel, en fait, pour commencer la guerre. Ou peut-être on allait dire, bah là, ok, tu reçois le droit de tuer dans un cadre précis, on fait un dépôt d'offrande pour ça, et peut-être, ou un autre pour clore, peut-être, pour dire, ok, la violence, c'est seulement dans ce...
C'est comme chez les Indiens qui enterrent ou déterrent l'âge de guerre. Enfin, là, en l'occurrence, on enterre pour commencer la guerre.
Bah, c'est vrai que comme on n'y était pas, d'après les traces, on essaye de chercher, en fait. Il y a aussi toute une archéologie expérimentale. On va essayer d'observer, de retrouver les techniques de combat, en fait. Donc ça, c'est assez difficile. Hein. Il y a différentes approches, parce que nous, archéologues, on va plutôt regarder les traces. Pour essayer de comprendre l'objet qu'on a, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art guerrier, en fait, au développement de l'art guerrier. On va regarder la mobilité du guerrier avec les protections. Est-ce que si j'ai ma cuirasse, est-ce que je peux bouger aussi facilement? Est-ce que du coup je me protège, mais du coup je prends le risque de pas pouvoir bouger beaucoup?
Il n'y a pas encore d'armure en métal à l'âge du bronze, c'est un peu tôt.
On a des cuirasses quand même. Donc,
les cuirasses sont en métal, pas en cuir, quoi.
Oui, je pense qu'il y avait les deux, en fait. Mm-hmm. Ça devait dépendre peut-être de la richesse, en fait, du guerrier et ce à quoi il avait accès, en fait. Donc, il devait avoir de l'inégalité aussi dans...
Oui, dans l'accès à la guerre.
Dans l'accès à la guerre,
l'accès aux armes. Même après, au Moyen-Âge, ça a continué, ça.
Tout le temps continué. Ouais.
Même encore maintenant, peut-être.
Sans doute, ouais.
Et donc, ça, c'est pour les armes. Bon, les armes, les cuirasses, les équipements, les traces, les vestiges humains. Mais à partir du moment où on est dans un contexte guerrier, on imagine qu'il y a que ça se voit dans le paysage. Enfin, il y a de la défense, des villages qui se fortifient ou des choses comme ça, non? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à l'âge du bronze?
Alors, pour la Bretagne, on connaît des éperons barrés. Donc, sur le littoral, en fait, ce sont des avancées de terre, en fait, qui sont facilement défendables. Et donc, souvent, on trouve encore les talus qui sont bien conservés. Ici, on peut parler à Crozon, par exemple, à Losmar, il y a un éperon barré qui est magnifique, donc qui est en réserve archéologique, hein, parce que voilà, c'est des sites qui ne sont pas fouillés.
Il est plus récent que l'âge du bronze, non? Il est quand même de l'âge du bronze
Tant qu'ils ne sont pas fouillés.
Après,
on peut savoir dans les textes en fait, qui vont être utilisés au Moyen-Âge ou à l'âge du fer, mais il y a quand même de fortes chances, s'ils sont intéressants à cette période-là, qu'ils soient aussi intéressants à l'âge du bronze, en fait.
Sauf qu'un éperon barré, on peut difficilement imaginer que les gens y vivaient de façon permanente. Donc on imagine plutôt un ouvrage défensif à l'occasion quand il y a besoin, en fait, c'est ça?
Alors il y a une des théories qui dit ça, ou alors est-ce que c'était seulement ostentatoire, de prestige pour démontrer on ne sait pas vraiment. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a des ressources qui permettent de rester, en fait. Est-ce qu'il y a un accès à l'eau potable? Est-ce qu'on va trouver des traces de stockage, en fait? Et c'est vrai que c'est des sites qui sont très peu fouillés pour l'instant, qui sont plutôt conservés en réserve archéologique pour plus tard.
Ah oui, et est-ce qu'on a d'autres traces de fortifications de l'âge du bronze ? Alors, pas forcément en Bretagne, mais peut-être plus loin. Mais...
Alors, il y a des habitats fortifiés de hauteur qu'on peut trouver dans le sud de la France, par exemple, qu'on ne trouve pas forcément par ici. Mais oui, il y a déjà des, voilà, des habitats fortifiés.
Et alors, quel type de fortification ? Ça consiste en quoi, une fortification de l'âge du bronze ?
Ouais, ça va être des grands remparts avec des tranchées, des talus, enfin, voilà, tout un système de remparts, de portes.
Il y avait pas encore des inventions techniques du style Murus Gallicus plus tard.
Non, ou... ça c'est plus tard.
Ouais. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres traces ? Enfin, si, il peut y avoir des traces de squelettes isolés victimes de violences, mais là, on n'aura pas forcément la preuve que c'est une guerre. Ça peut être un règlement de compte ou...
Ouais, c'est différent parce que dans la guerre, c'est tout un groupe, en fait, qui s'unit pour une raison spécifique et qui s'organise. Donc, c'est vraiment... quand on parle de guerre, c'est un cadre vraiment spécifique. Et sinon, pour la France, on connaît en Normandie aussi, dans la vallée de Seine, où ils ont trouvé, pareil, le long d'une rivière, plus de 500 balles de fronde en pierre, donc qui avaient été jetées depuis la hauteur. Donc là, on peut dire qu'il y a eu aussi un conflit, en fait. Mais là, voilà, c'était des objets en pierre qu'on a trouvés.
Et là, il n'y avait pas de reste humain ?
Je crois qu'ils n'ont pas trouvé de reste humain.
Oui, ce serait quand même pas... Alors, c'est un camp d'entraînement à la...
ou pas conservé, ou alors tout le monde s'en est sorti.
Ah, aussi, autre hypothèse. Donc, en France, il n'y a pas tellement de charniers, finalement, à l'âge du bronze. Enfin, est-ce qu'on pourrait dire quand même que c'est une période plus guerrière qu'avant ou qu'après
Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus, parce que nous, on va travailler avec ce qu'on trouve, en fait. Donc, c'est vrai que si c'est conservé, le métal va être conservé. Mais oui, moi, je n'ai jamais eu la chance de trouver... Enfin, la chance, voilà, c'est comme on parle de guerre, quand même. Alors, moi, j'avais fouillé à Auxey-Lodunum, où c'était là, à l'âge du fer, c'était la dernière bataille entre les Gaulois et les Romains, donc dans le Lot, à Vérac. C'était ma première fouille. Donc,
Récent.
Voilà, plus récent. Mais c'est vrai qu'on trouvait toutes les traces. On trouvait les pointes de flèches plantées. C'était passionnant à fouiller. Mais pour l'âge du bronze, j'ai jamais eu la chance de fouiller que des traces secondaires. En fait, les dépôts d'armes, oui, ça, j'en ai fouillé. Mais pas des traces primaires de bataille.
Et si bataille il y a eu, c'est pareil, on en est toujours dans le registre des hypothèses. Mais quelles peuvent être les causes de conflits ?
Alors, je pense qu'elles sont, c'est souvent les mêmes, en fait. Il y a peut-être une quête de territoire aussi, chercher un nouveau territoire, accès à des ressources naturelles qui sont rares et recherchées. On peut imaginer pour le minerai, par exemple, parce que ça va tellement prendre de l'importance dans la société que peut-être certains, peut-être une jalousie qui va se créer.
L'étain, il était à quel endroit en Armorique, en gros ?
On en connaît du côté de Saint-Renan, par exemple, en fait. Il y a des archéologues qui travaillent sur ces thématiques-là pour en trouver. Il y avait du cuivre qui venait d'Irlande. On connaît de l'étain aussi en Cornouaille anglaise, par exemple, en Angleterre. Pour les raisons de la guerre, on peut penser aussi à des désaccords politiques, des accords de croyances religieuses. Peut-être une réponse à un premier acte de violence aussi. On a été agressé, donc on répond.
C'est toi qui as commencé.
Et puis peut-être une violence ritualisée aussi, qu'on ne connaîtrait pas, mais la guerre, c'est toujours une question de pouvoir et d'ego, sinon.
Et oui, bien sûr. Mais en fait, oui, c'est ça. Parce que, par exemple, si on se pose la question de l'idéologie, qui est souvent aussi un motif, qui peut entraîner la guerre, en tout cas, est-ce qu'on a une idée de ce que pourraient être les idéologies de l'âge du bronze, y compris religieuses,
Alors, pour les religions, on va seulement... c'est difficile, en fait, de ne pas se projeter sur ces populations-là et de seulement se baser sur les traces qu'on a, qui vont être les rituels, par exemple, de dépôt d'armes, ou bien ce qu'on va voir sur l'art rupestre, ce qui sont gravés, par exemple, en Norvège. Donc, on sait qu'il y a un espèce de culte solaire. Il y a des barques qui sont peut-être pour expliquer un chemin vers un autre monde au niveau de la mort. Enfin, c'est vrai qu'on va se baser là-dessus, en fait. On n'a pas d'écrit très précis. C'est pas comme pour les Gaulois, où il y a les Romains qui vont raconter les croyances des Gaulois, où on connaît bien plus. Là, c'est différent.
Il n'y a pas de scène de guerre de l'âge du bronze aussi.
On en trouve en art rupestre, crois.
Quand même.
Oui, d'accord. Il me semble, en Norvège, en Scandinavie.
Oui, donc on ne peut pas savoir. Après, oui, on peut imaginer des rivalités entre clans, mais on ne peut pas aller plus loin sur l'idéologie de l'âge du bronze.
Alors, il y a sûrement des archéologues, tu vois, dont c'est le thème principal qui vont chercher. Moi, je n'irai pas...
En examinant le funéraire, puisque c'est une autre spécialité.
Je peux dire ce que je vois et ce que je pense en interprétant. Après, on voit qu'il y a une hiérarchie. Et quand il y a une hiérarchie qui arrive, il y a des inégalités. Et de fait, il y a... il y a la guerre qui peut se développer à ce moment-là aussi.
On peut soupçonner, en tout cas. Oui, ce serait bien. On va terminer rituellement, on termine nous, on a nos petits rituels aussi, par rappeler que utiliser un détecteur de métaux sur un chantier de fouille, ça n'est pas, enfin même en général, ça n'est pas autorisé déjà, et ça n'est pas une bonne idée. Pourquoi ?
Ah oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est interdit d'utiliser le détecteur de métal hors cadre réglementaire, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un programme scientifique, un programme de recherche et un accord administratif, en fait, du préfet. Parce qu'en fait, il y a des gens, voilà, on a eu beaucoup de cas, en fait, en ce moment, en plus de pillages de ces dépôts rituels de l'âge du bronze, où ça sonne, les gens sortent les objets, donc on a perdu tous les contextes. Donc, tu vois, par exemple, pour trouver, savoir si c'était une scène de guerre, bah, si tout a été enlevé, c'est comme un meurtre, si tu veux. Si on a enlevé toutes les preuves et qu'on a tout remis en vrac, bah, on n'a plus accès, en fait, à l'histoire de ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est catastrophique et il y en a quand même de plus en plus, et notamment ici, dans les environs.
Eh bien, merci Muriel Filly. On retrouvera le Centre départemental d'archéologie du Fou prochainement dans l'Aisne. En attendant, n'hésitez pas à réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de Radio Évasion.
Merci, au revoir.